les podcasts de Radio Vatican.
C'était il y a 15 ans. Le Timor oriental, une moitié d'île coincée entre l'Indonésie et l'Australie, arrachait son indépendance par référendum en mai 2002, après 4 siècles de colonisation portugaise, puis 24 ans de lutte armée avec l'Indonésie voisine, qu'il avait par la suite annexée. 15 ans plus tard, un quatrième président élu va être investi ce samedi à Dili, la capitale. Il s'agit de Francisco Guterres. Surnommé Luolo, l'ancien guerriero était candidat pour la troisième fois à la présidentielle et l'a finalement emporté fin mars. Il est d'ailleurs le premier à obtenir une majorité claire depuis le héros de l'indépendance, Xanana Gusmão, élu à une très large majorité en 2002. Francisco Guterres a été soutenu par le CNTR, une formation fondée par Gusmão, ainsi que par les membres de son parti. Le Frétiline. François Rayon est spécialiste de l'Indonésie et du monde malais, chercheur au CNRS et à l'École des hautes études en sciences sociales. Il revient avec Marie Duhamel sur le profil du nouveau président.
À 63 ans, c'est un personnage respecté qui fait partie de l'élite timoraise qui provient de la résistance armée à l'Indonésie pendant les 24 ans d'occupation du territoire anciennement portugais par les Indonésiens. Et donc, Francisco Guterres est l'un de ces leaders qui, avec José Ramos Horta, avec Xanana Gusmão, y compris l'actuel président qui va passer la main donc à Guterres, l'ancien commandant en chef Taur Matan Roak, eh bien tous ces gens-là, ce sont eux qui, depuis 15 ans, dirigent le pays en se partageant le pouvoir entre la présidence qui est largement symbolique, bien qu'avec un pouvoir de veto, et puis surtout le poste de Premier ministre, le personnage qui gère effectivement le pays. Et les uns et les autres ont alterné en se succédant aussi bien comme président que comme Premier ministre. Donc avec cette élection de quelqu'un qui appartient encore à cette ancienne élite, il y a une grande stabilité, il a été élu en un seul tour avec 57% des voix. En même temps, il y a une absence de relève et le contrôle de l'activité d'exécutif parlement sera faible, même si le concurrent direct de Guterres, ancien ministre de l'Éducation, a obtenu 30% des voix. Il représente la jeune génération qui finira bien par prendre la relève de la génération de l'indépendance.
Le Frétiline et le CNRT, deux formations en général opposées, se sont alliés pour élire Guterres. À quelle ligne politique appartient-il ?
Donc en réalité, si vous voulez, la couleur politique de ces différentes formations politiques compte assez peu, me semble-t-il. On a plutôt affaire, si vous voulez, à un système élitiste, assez fermé sur lui-même, malgré une apparence démocratique, puisque Timor oriental est bien noté comme étant le pays d'Asie qui serait le plus démocratique, bien qu'étant le plus jeune pays. Mais en réalité, on a un système fortement clientéliste où l'ancienne génération de l'indépendance parvient à se maintenir au pouvoir, premièrement en raison de l'immense prestige qu'elle conserve aux yeux d'une population qui reste quand même extrêmement peu développée, avec un système d'éducation extrêmement simple et une grande pauvreté. Et justement, du fait de cette pauvreté, eh bien, l'élite politique encore au pouvoir a les moyens d'entretenir un clientélisme qui lui permet de se faire réélire régulièrement jusqu'à présent. Et ce clientélisme est maintenu grâce aux revenus du pétrole et du gaz exploités dans la mer de Timor entre Timor et l'Australie, et qui permet de dépenser assez généreusement pour des gens qui sont dans une certaine dépendance.
Avec toutefois le problème des ressources pétrolières qui s'épuisent.
Alors le problème, l'immense problème auquel on fait face maintenant, c'est le fait que les réserves pétrolières et gazières s'épuisent presque totalement. Il y a certes un fonds souverain mis en place par les autorités timoraises, 16 milliards, mais qui sont rapidement dépensés pour faire face à la très grande pauvreté de la population. Et surtout, il y a une partie de ce fonds qui est largement épuisée par l'immense corruption qui règne sur le pays.
D'autant que la question du pétrole crée des crispations avec le grand voisin australien. Ce sera, on imagine, un enjeu pour le président Guterres.
Alors, ce qui attend le président Guterres, c'est d'essayer de régler le problème avec l'Australie, parce qu'il y a un conflit entre Timor et l'Australie à propos de l'exploitation d'une autre zone pétrolière dans la mer de Timor, Et les Timorais voudraient que ce gisement marin soit partagé entre Timor et l'Australie, afin que les Timorais puissent le contrôler eux-mêmes. Ceci dit, l'Australie résiste à cela, il y a une négociation assez rude en ce moment sur ce thème, et d'autre part, si les Timorais obtenaient le contrôle de la moitié de ce gisement, il leur faudrait trouver les moyens de l'exploiter, alors qu'ils ne disposent pas des techniciens nécessaires, et que les Australiens ne les aideraient peut-être pas à le faire.
Vous avez parlé tout à l'heure du pouvoir présidentiel qui se limite, pour être un peu synthétique, à un veto. Donc il n'y a pas vraiment de pouvoir sur l'exécutif. Il me semble qu'il y a bientôt des élections législatives. Est-ce que ces élections législatives permettront à des personnes qui ont une nouvelle vision du développement d'arriver au pouvoir?
Dans le meilleur des mondes, les élections parlementaires de juillet prochain devraient permettre une relève avec des jeunes gens peut-être un petit peu mieux formés et moins politisés et plus gestionnaires, c'est de ça que le pays aurait besoin, d'arriver au pouvoir. Malheureusement, il y a un projet qui est déjà dans le pipeline. L'actuel président qui est en train de passer la main à Guterres, c'est-à-dire l'ancien commandant-chef des forces de résistance militaire à l'armée indonésienne, le président Taur Matan Ruak, a prévu de se présenter en juillet pour tenter d'obtenir le poste de Premier ministre. Donc c'est toujours ce vieux système où le président démissionnaire, quelques mois plus tard, se fait élire comme Premier ministre. Alors, il sera soumis, certes, au contrôle du suffrage, à l'élection, mais dans la mesure où probablement les deux principaux partis, c'est-à-dire le Fretilin et le CNTR, vont le soutenir, il y a toutes les chances que Taur Matan Ruak devienne le prochain Premier ministre. Ce qui signifie une grande continuité, avec on l'espère, une stabilité. Et la stabilité, ça n'est pas quelque chose de vain, puisque le pays a connu des conflits assez terribles entre les différentes forces politiques après l'indépendance. Donc s'il y a une stabilité politique qui est promise, cela est positif, mais cela augure mal pour des efforts de réforme, de gestion et surtout de développement. Tout l'enseignement et toute l'éducation sont à revoir.
D'autant qu'il me semble que la moitié de la population a moins de 20 ans. Donc l'éducation, c'est quand même un chantier sur lequel il faut investir.
Absolument. L'investissement principal qui devrait être consenti est effectivement l'éducation. Une grande partie de la population reste analphabète. Et même l'Église catholique, qui joue un rôle dans l'éducation de la population, a beaucoup de difficultés. À la mesure où l'essentiel de la population timoraise s'est converti au catholicisme sous l'occupation indonésienne pour marquer la résistance des Timorais contre l'Indonésie musulmane, mais c'est une conversion au catholicisme qui est assez formelle, et en fait la population très fréquemment revient à des pratiques animistes qui posent beaucoup de problèmes à l'Église catholique, laquelle par ailleurs doit faire face à la concurrence des pentecôtistes extrêmement actifs et qui font du prosélytisme et qui parviennent à séduire les masses timoraises.
Guterres a été élu dès le premier tour avec un scrutin dont rêvent certains dirigeants européens. Qu'est-ce que la population attend aujourd'hui de son président?
Elle attend ce que du reste il a promis, mais on tourne un petit peu en rond parce que les attentes des uns et les promesses des autres sont stables, mais elles ne sont jamais réalisées. Donc les promesses faites par Guterres, et c'est pour ça qu'il a été élu, et c'est donc ça l'attente de la population, c'est sortir du sous-développement, réduire la pauvreté et mieux utiliser les fonds du pétrole, faire en sorte que les gisements pétroliers soient renégociés avec l'Australie et surtout insister sur une éducation effective qui s'adresse à l'ensemble de la population.
Sauf que ce ne sera pas à lui que ce travail incombera.
C'est plutôt le job effectivement du Premier ministre, mais on est dans une espèce de grande stabilité ou même une sorte d'inertie. C'est ça qui est un petit peu malheureux. C'est pour ça qu'il faudrait qu'il y ait une relève politique à l'occasion donc des prochaines élections parlementaires de juillet. C'est là que l'occasion peut se présenter, et en espérant que la nouvelle génération soit à la fois motivée, courageuse et les moyens intellectuels de faire ces réformes de gestion du pays pour favoriser un développement qui permettrait de sortir cette population qui à 50% vit dans la pauvreté telle que définie par la Banque mondiale, c'est-à-dire avec moins de $500 par an.
Finalement, 15 ans après l'indépendance du Timor, le processus démocratique n'est pas encore garanti parce qu'il n'y a pas de transition générationnelle.
Tout à fait. Et c'est le problème, c'est-à-dire qu'on se rend compte une fois de plus que pour avoir une belle démocratie qui fonctionne et qui autorise des transitions et des relèves de façon paisible, il ne suffit pas d'instituer les procédures et les institutions de la démocratie. Ce que Timor a fait, faut aussi avoir une culture de la démocratie. Il faut une population éduquée qui comprenne quels sont les enjeux et qui ne cède pas simplement au charisme de quelques vieux chefs qui ont fait l'indépendance du pays.